l'artiste de roman contemporain. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet de recherche poétique et esthétique du contemporain. En choisissant de s'attarder aux rôles et aux fonctions de l'art et de l'artiste en littérature, on voulait tenter d'explorer de nouvelles voies qui n'avaient pas été directement abordées par les travaux de l'équipe, mais qui nous semblaient en même temps assez représentatives d'une part de la production contemporaine. C'est entre autres un commentaire de Jacques Allard qui nous a mis sur la piste. Dans le roman Maube, celui-ci se demande si le roman de l'écrivain ne ferait pas progressivement place au roman de l'artiste. Il remarque notamment que la figure du créateur devient un personnage déterminant du roman québécois contemporain. C'est un terme qui permet aussi d'aller sur le terrain de la comparaison entre la France et le Québec. Bien qu'il y ait également de nombreux personnages artistes dans la littérature française contemporaine, la tradition du roman de l'artiste est beaucoup plus vieille en France et les œuvres qui s'écrivent aujourd'hui semblent être souvent en dialogue avec des classiques du genre, comme l'œuvre de Zola ou le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, par exemple. On a aussi remarqué qu'il y aurait, dans les dernières années, un intérêt accru des chercheurs pour la question du roman de l'artiste. En effet, plusieurs études ont été consacrées à la question. Certaines sont plus circonscrites, comme l'essai de Marie-Laurence Noël, publié en 2009, intitulé « La peinture hollandaise du siècle d'or dans le roman », ou encore le collectif de 2008, dirigé par Marie-Christine Bayard, sur le roman du peintre. D'autres sont beaucoup plus larges et embrassent à la fois plusieurs arts et couvrent une époque plus grande. C'est le cas, entre autres, d'un numéro de la revue French Studies, paru en 2009, intitulé « Figure de l'artiste », ainsi que d'un colloque qui aura lieu la semaine prochaine en Angleterre et qui porte sur l'art dans le roman français depuis 1900. Mais l'intérêt d'étudier cette question ne se limite pas à la forte présence de cette thématique dans la littérature contemporaine, ni au nombre d'études récentes qui ont porté sur la question. C'est que, selon nous, l'artiste, quand il est représentant de littérature, joue rarement un rôle anodin. Sa présence dans le récit s'accompagne souvent d'un discours sur la création. Et selon Kirsty Bell, la présence de la figure de l'artiste favoriserait des déplacements intersémiotiques et une esthétique de la superposition du récit et du visuel ou du récit et de l'auditif, selon les cas. Ainsi, de nombreux critiques remarquent, par exemple, une importance accrue du regard dans des textes qui mettent en scène des artistes visuels. Et on finit souvent par s'approcher de la mise en abîme. Mettre en scène l'artiste et le phénomène de création revient souvent à représenter l'acte de représentation. Cela nous invite donc à réfléchir à la dialectique qui se dessine dans ces romans entre la littérature et les autres arts. La littérature qui veut être comprise à la fois dans sa spécificité et dans ce qui la rattache aux autres arts, c'est-à-dire le geste de création. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On va maintenant écouter ce que nos invités ont à dire sur la question. La formule retenue aujourd'hui, celle de l'atelier, vise à laisser beaucoup de place à la discussion. Dans cet esprit-là, on va inviter nos conférenciers à présenter leurs recherches et leurs points de vue sur la question dans de courtes interventions de 10 minutes. Puis, à la suite des 4 présentations, il va y avoir une table ronde où vous pourrez adresser vos questions à chacun des participants et où on pourra discuter plus librement de la thématique. Donc, je vous présente notre première invitée, Madame Marie-Pascale Hudelot, qui est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Prenant pour objet le roman contemporain en France et au Québec, ses recherches portent dans l'ensemble sur le récit et la narrativité, les questions de la mémoire, de la médiation, de la voix et, plus récemment, de l'interaction entre le cinéma et la littérature narrative font partie de ses principaux champs d'intérêt. Auteur de nouvelles et de romans, elle consacre une partie de ses recherches à la création littéraire. Elle a récemment publié une monographie, Le sens du récit pour une approche esthétique de la narrativité contemporaine en 2007 et une fiction, La respiration du monde en 2010.
Merci. Alors bon, j'espère que ce ne sera pas trop le flou artistique, que ma présentation ne sera pas trop floue justement. Et je vais parler des usages et fonctions de la représentation de l'art et de la figure de l'artiste, donc qui fait l'objet de cette table ronde, à partir d'un intérêt de recherche que j'ai pour les relations entre littérature et cinéma. Donc c'est surtout la question du cinéma et de la littérature narrative contemporaine que je vais travailler ici. Alors le départ est un contexte très large. Littérature décentrée dans un univers culturel dominé par l'image, l'audiovisuel, les transferts, l'adaptation. Et dans ce contexte, la relation entre le cinéma et la littérature permet, je crois, de réfléchir au rapport qui existe entre l'esthétique et la narration. Et c'est ça qui m'intéresse. Je dirais qu'au cinéma, on a des récits et une esthétique en littérature également. Dans les deux cas, depuis la fin des avant-gardes, esthétique et narrativité sont non pas ennemis, mais complices, avec évidemment des frictions, des tensions, et parfois même des rejets, puisque Richard Millier, dans L'enfer du roman, nous dit que le cinéma, c'est l'enfer, enfin un des enfers de la littérature. Alors, pour montrer cette difficulté à séparer finalement narrativité et esthétique, je pointerai ici vers des éléments du récit, par exemple, personnage, la grande blonde qu'on trouve chez les Schnauz, ou une situation, le duel, qu'on trouve notamment dans un roman qui s'intitule Western, roman de Christine Montalbetti. Donc, ces éléments clés du récit sont d'emblée, qui sont donc, on est dans l'histoire, et pourtant ces éléments l'histoire sont d'emblée marqués par le cinéma. Ce sont même des clichés cinématographiques qui vont être réutilisés comme matériaux romanesques. Donc le matériau narratif, dans des exemples comme ça, n'est pas dissociable d'une esthétique cinématographique. Il n'est pas neutre. Il n'arrive pas de façon neutre et on pourrait ouvrir à d'autres, évidemment, à d'autres exemples. Alors, je ne vais pas vous lire Montalbetti, je pourrais vous la lire si vous voulez plus tard. C'était, il y a un exemple de duel, alors c'est vraiment le duel canonique, mais on n'y comprend plus rien parce qu'elle ralentit complètement la description et elle fait un travail de focalisation visuelle avec le cinéma qui fait qu'on s'intéresse aux détails, au cadrage, à la lumière et que d'une certaine façon, même si on reconnaît le scénario duel, on perd le sens de cette action et tout à coup, on prend une sorte de distance aussi par rapport au duel qui est pourtant reconnu. Autre cas moins expérimental et plus narratif, j'ai pris les... Alors là, je me suis obligée à prendre des choses très 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 contemporaines. J'ai pris le e-carnet de Catherine Mavrikakis, L'éternité en accéléré, dans lequel il y a dans plusieurs entrées, le cinéma est présent, et le recours au cinéma, qui est souvent explicite, montre là encore que notre imaginaire est pétri par les films qu'on a vus et qui circulent dans l'imaginaire social et collectif. Et la chose qui est intéressante qu'on trouve chez Mavrikakis, mais qu'on trouve aussi dans d'autres romans contemporains, c'est qu'il y a des scénarios latents, potentiels, associés à des lieux ou à des situations vues au cinéma. Il y a donc une sorte de potentialité narrative qui est liée à cet imaginaire cinématographique. Je vous lis... un passage de ces notes du sous-sol, donc les notes du sous-sol sont évidemment en renvoi à Dostoïevski, donc la littérature n'est pas absente comme référence, mais à la fin des notes du sous-sol, elle renvoie vraiment au cinéma de façon explicite. Bien sûr, le basement reste un endroit de perdition, de folie, où tout peut arriver. C'est là qu'on rêve de séquestrer ou de tuer quelqu'un. C'est là qu'on a peur de voir surgir avec une hache un sosie de Jack Nicholson sorti tout droit du film The Shining. C'est là qu'on imagine qu'un échappé de prison ou qu'un serial killer se terre depuis des semaines sans faire de bruit. Et il m'a toujours été impossible de descendre les marches branlantes de l'escalier de bois qui menait au sous-sol sans avoir pendant une ou deux secondes le cœur qui battait la chamade et l'oreille tendue. Le basement fait peur. C'est sûr, et je viens de voir sur Internet que sort sur nos écrans un film terrifiant, inspiré de la vie de Gertrude Banisiewski. Bon, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je m'arrête là. Là, je me sens que avec cette référence explicite et toutes les potentialités narratives qui peuvent surgir comme ça d'un imaginaire cinématographique, on a aussi le travail d'écriture qu'on peut lire en filigrane, c'est-à-dire qu'on travaille avec des scénarios possibles et puis on va en choisir un parmi d'autres, où on va jouer et mettre en scène une virtualité, quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé, ce qui se fait aussi bien dans Western que chez Marie-Thérèse ici. Alors la représentation de l'art et de l'artiste réfléchit donc et met en évidence la médiation esthétique. Ça, ce serait pour la fonction, une des fonctions, la médiation esthétique du monde, de ses imaginaires, de ses scénarios. Elle permet de faire de la littérature un espace de synthèse et de réflexion esthétique conscient. Là-dessus, il y a une œuvre magistrale qui est celle de Marie-Claire Blais, qui me paraît, on ne va pas en parler ici, mais il me semble que pour ce qui est de la synthèse et de la réflexion esthétique totalisante, avec une ambition très grande, l'œuvre de Marie-Claire Blais est vraiment exemplaire. Alors, cet espace de réflexion qui souligne la médiation esthétique ne renonce pas à représenter la réalité dans le contemporain, mais assume le fait que cette représentation narrative de la réalité n'est pas directe ni immédiate. Elle est traversée par des esthétiques dont elle joue sans condamner la représentation narrative pour autant. Alors, donc, la représentation de l'art ou de l'artiste permet d'affirmer notre rapport toujours médiatisé au réel comme au récit qui ne nous arrive pas vierge. L'exemple du duel ou du sous-sol était là pour un petit peu pour exemplifier cela. Deuxième enjeu, alors là, je peux continuer ? Deuxième enjeu, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais être avec un exemple. C'est plus là une question d'intermédialité et de méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a ce danger dont on m'a beaucoup parlé dans certaines interprétations que j'ai pu faire de récits. C'est-à-dire quand on s'intéresse au rapport avec d'autres esthétiques en dehors de la représentation explicite. Parce que bon, moi, c'est ça aussi que j'ai retenu dans l'intitulé de cet atelier, c'est qu'on parlait beaucoup de la représentation et de la figuration de l'art et de l'artiste, qui a un rôle à jouer, mais le rapport entre les relations entre les esthétiques n'est pas toujours ou pas seulement représenté ni figuré. Et alors, dans ce contexte-là, la représentation de l'art ou d'artiste sont des indices, je dirais, sont indicatifs pour le lecteur, pour l'interprète, de la manière dont tel ou tel récit s'approprie une ou plusieurs esthétiques et les intègre. Donc c'est une sorte d'indice de lecture où la représentation qui renvoie explicitement à d'autres arts, d'autres médias, va tourner notre attention vers un travail beaucoup plus implicite pris dans une écriture avec d'autres esthétiques que l'esthétique littéraire, romanesque ou autre. Alors là, je vais prendre un exemple là aussi très contemporain qui est L'homme blanc de Perrine Leblanc. Livre dont on a beaucoup parlé, mais c'est une ébauche là, c'est quelque chose que je lance, j'ai pas travaillé, c'est encore de l'intuition de lecture, et c'est un peu pour ça d'ailleurs que je le présente ici à la table ronde. Il y a dans L'homme blanc des références fortes et très explicites au roman du 19e siècle. Bon, ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, je dirais, dans la littérature contemporaine. On trouve ça aussi chez Dominique Fortier. On s'appuie sans honte, on pourrait dire de façon très ouverte, sur l'héritage romanesque du 19e. Bon, Leblanc, c'est Hugo, l'homme qui rit, qui est explicitement convoqué à plus d'une reprise. Donc il y a cette représentation-là, mais il y en a une autre, moins affirmée, moins nette, qui pointe vers le cinéma. Alors c'est celle-là que je vais souligner. D'abord le titre, L'homme blanc. On peut le lire. Alors il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut faire de ce titre, mais une des lectures qu'on peut faire se fait en écho avec la deuxième partie du film de Prévert et Carnet, Les enfants du paradis, L'homme blanc. Bon, et on a donc là une figure du saltimbanque, parce que la grande figure de l'homme blanc de Perrine Leblanc, l'artiste, c'est le saltimbanque. Hein. Mais cette figure du saltimbanque passe par l'imaginaire cinématographique. Ici, le mélodrame, et j'utilise le mot volontairement, le mélodrame de Carnet et Prévert. On a la figure de Charlot, de Chaplin, qui revient à deux reprises. Là aussi, c'est intéressant pour voir comment se construit cette figure de l'artiste en saltimbanque. Et puis, à un moment donné, j'ai repéré, il y a des références que j'ai repérées dont je ne parlerai pas pour être plus rapide, je me tiens en principal. Il y a un moment dans le livre où le personnage de Kolia tourne un film, Andrei Roublev, hein, c'est le titre du film. On nous décrit la scène qui est tournée, je ne vais pas la lire, mais il s'agit d'un film d'Andrei Tarkovsky, qu'on peut voir si on veut aller voir. Donc là, il y a une référence explicite à un film de Tarkovsky. Et là, je vais vous lire l'extrait, il y a un film d'un Allemand dont on parle, un Allemand qui s'appelle Schaeffer, qui raconte une histoire qui présente une certaine ressemblance, nous dit-on, avec l'histoire personnelle de Kolia. Et il y a tout un rapprochement entre l'histoire de Kolia et cette histoire qui a été filmée par un Allemand qui en a entendu parler par le mentor de Kolia. Bon, si vous avez lu le livre, j'espère que vous avez lu le livre, sinon c'est peut-être un peu abstrait. Donc voilà, voilà ce qui est dit à propos de ce film que Kolia va voir. Kolia se fit raconter son enfance dans les mots d'un autre homme. Le film, tourné en allemand avec sous-titres russes, était à la limite du mélodrame. Le réalisateur, à qui on avait déjà reconnu un certain talent pour la docu-fiction, mégalomane se prenant pour Werner Herzog, avait tourné en Pologne des scènes très dures de camps de travail sibériens, etc., etc. Bon, là, je m'arrête ici. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est qu'on a un renvoi explicite au mélodrame, mais critique. Hein, et cette légère ironie critique d'un film à la limite du mélodrame peut nous encourager à interpréter ce roman comme une manière de débarrasser le personnage le personnage très mélodramatique de Kolia, hein, du saltimbanque, dont la vie est quand même très aventureuse, etc. Donc, de débarrasser ce personnage d'une tonalité mélodramatique, et sa manière de détourner le mélodrame du mélodramatique, la manière de Leblanc, je veux dire, de Perrine Leblanc, est entre autres, je crois, et c'est là où je suis vraiment dans l'intuition, par une narration en partie filmique. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, on n'est pas dans la représentation, on est dans la manière de raconter. Et cette manière de raconter, je crois, bon, il faudra que je y revienne, elle joue sur un montage de scènes très courtes, très détachées, donc l'effet de montage se fait sentir, mais c'est un montage qui est en même temps linéaire, chronologique, contrairement à d'autres explorations qui ont été faites avec le montage, où le montage est précisément ce qui permet de déconstruire la chronologie. Avec Leblanc, on a un montage qu'on peut capter dans des scènes assez courtes, détachées les unes des autres, mais qui reste linéaire et chronologique. Alors là, il y a quelque chose Il y a une piste qui me paraît intéressante. Je vais m'arrêter là pour pas trop déborder. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va sûrement avoir l'occasion d'y revenir pendant la table ronde tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester du côté du cinéma avec notre prochaine invitée, Karine Bissonnette, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal, au département de littérature et langue française, sous la direction de Mme Pascale Huglot. Elle y a aussi fait son baccalauréat spécialisé en francophonie. Son mémoire de maîtrise portera sur le travail d'évocation des souvenirs et la photographie dans l'événement et dans les années de l'auteur française contemporaine Annie Ernaux. Elle souhaite étudier la tension complexe dans la narration de la mémoire matérielle entre la restitution tentée portée par une écriture de voix photographique et la production d'effets et de sens désirant transmettre au lecteur une empreinte mémorielle souvent visuelle.
Merci. Alors, je vais vous rappeler sur l'événement qui est paru donc en 2000 où Annie Ernaux tente de relater les péripéties entourant l'avortement clandestin qu'elle a vécu en janvier 64. Et à travers ça, Ernaux dévoile aussi ses réflexions concernant la démarche littéraire testimoniale et le besoin de preuves pour transmettre au lecteur cet événement-là. Et c'est cohérent donc avec sa revendication d'authenticité qui se traduit par une narration concise d'expériences intimes reliées à une dimension collective. Donc, on retrouve dans l'événement un travail d'évocation des souvenirs supporté par des preuves. Il y a des citations de journal intime, d'agenda, de lieux communs de l'époque, mais aussi des références explicites à des longs métrages. Et la piste des films s'avère intéressante, pas seulement à cause de la pertinence des titres choisis, c'est qu'il me semble que même si Ernaux revendique une écriture près des traces matérielles, la mise en récit mobilise aussi des ressources littéraires qui cherchent à produire un effet sensible, démonstration des souvenirs pour le lecteur. En ce sens, l'événement a comme récit central un épisode qui n'a été, je cite, que du temps au-dedans et au-dehors de l'auteur, un temps d'attente. La narration, justement, entre la restitution tentée et la production d'effets frappant l'imagination d'autrui, use de ressources pour retracer les images mémorielles de l'attente, des ressources que je souhaite rapprocher de celles du cinéma, un média moderne qui joue précisément sur les images et sur la durée. Et je me concentrer plutôt qu'à la trame chronologique de l'attente qui est établie entre l'incipit et l'excipit, mais des procédés cinématographiques qui sont repérables dès les premières pages du livre, notamment lorsque la narratrice sort du métro et marche jusqu'au bureau médical. Cette marche s'apparente à un travelling avant épousant, comme un plan subjectif le regard de l'auteur. Ici, le lecteur voit à travers les yeux de celle-ci, il ne sait pas où elle se dirige. Et dès le départ, il semble tirer vers, je cite, la vision effarée du réel d'Ernaux. Dès les premières pages du récit qui mène à l'avortement, l'auteur révèle qu'elle sait que ses règles, je cite, ne reviendront pas en voyant le long métrage Il Posto. Il s'établit un lien entre l'état d'attente inquiète d'Ernaux et la vue de la silhouette frêle en imperméable du petit employé, ses humiliations devant la désolation sans espoir du film. Le lien établi entre un état ou des sensations et un long métrage préexistant se répète à deux reprises importantes. La narratrice va trouver du courage et de la détermination à l'idée de tenter d'avorter avec des aiguilles à la vue de la souffrance dans Mein Kampf. Et elle ressent des contractions durant le visionnement du cuirassé Potemkin, quittant la salle en voyant un énorme quartier de viande suspendu à un crochet, grouillant de verre, une vision qui préfigure d'ailleurs l'atroce de la nuit qui va suivre. Et ceci dit, sa description concise d'Il Posto qui paraît le mieux illustrer le travail de construction du récit. C'est lent et triste, tout comme la trame que cherche à créer le récit d'une attente qui mène à un dénouement abortif. Après la confirmation de sa grossesse, il va s'enclencher un contre-la-montre pour l'interrompre. Et Ernaux précise, je la cite, que les mois qui ont suivi baignent dans une lumière de l'Inde. Je me vois dans les rues en train de marcher continuellement. Ces deux phrases illustrent bien l'état vague dans lequel la narratrice se trouve, à l'instar de ces images d'un temps, je cite, qui s'est ici sans avancée, comme celui des rêves. L'auteur se souvient ainsi de ces semaines et l'écriture œuvre à en reproduire les caractéristiques. C'est avec cet effet de lumière filtrée qu'il faut imaginer la lente quête. Le regard de l'auteur, le « je me vois », agit comme un plan subjectif au présent de la narration. le regard demeure extérieur à celui de la jeune femme de 1963. Malgré le souhait, voire la nécessité de s'émerger dans les images mémorielles et de parvenir à les transmettre par l'écriture, celle-ci demeure liée à une virtualité que réalisent bien d'ailleurs les techniques cinématographiques. À ça va s'ajouter la récurrence de l'errance dans les rues. L'auteur relate ses errances sans but dans différents lieux. Par exemple, elle tente de retrouver LB en parcourant les salles universitaires midi et soir. Même après l'avortement, elle marche dans les rues avec le secret de la nuit du 20 au 21 janvier dans son corps. La répétition de l'errance dans un court récit événement permet de retarder le dénouement en incarnant justement l'attente vécue par l'auteur. Ici, ça s'apparente à des travelling suivant la narratrice dans une suite de gestes montés sans ellipse, des techniques recréant d'ailleurs un certain effet duré. Elle a également la singularité de donner à voir les sentiments de solitude et de distanciation par rapport au monde qu'on appelle normal. À l'instar du corps étranger qui croit en elle, l'auteur sait qu'elle est, je cite, « devenue intérieurement une délinquante dans le monde étudiant ». Le regard désormais étranger qu'elle porte sur ce qui l'entoure se trouve soutenu par ses techniques. Par exemple, lorsqu'elle erre dans le quartier Martinville à la recherche d'un médecin, des plans de vue de prise frontale épousent le regard de la narratrice et ça s'enchaîne, comme par exemple « Je suis arrivée place Saint-Martin, des étals de marché étaient empilés ». En donnant concisément un détail d'usage quotidien, ces plans montrent un monde où la recherche illégale d'une avorteuse est exclue. L'accompagnement musical en son diégétique interne à la narratrice, la chanson Dominique Nick-Nick, joyeuse et dansante, ajoute à l'impression de décalage. La chanson qui paraît niaise ne cadre pas avec une quête autant pathétique qu'illégale. Pardon. L'effet de durée est davantage mis en relief durant la séquence précédant l'arrivée chez la faiseuse d'ange. Le temps a toute son importance puisque les minutes écoulées mènent au rendez-vous de l'avortement. Il est ainsi possible d'imaginer les gros plans subjectifs sur la montre de la narratrice qui la regarde sans cesse, accentuant visuellement cette importance. Ces gros plans sont insérés dans une succession de plans mettant en relief la solitude que je vais sauter ici. Il est aussi cohérent qu'avant de se diriger vers l'appartement de la faiseuse d'ange, la narratrice se regarde dans la glace au-dessus du lavabo, pensant à peu près « c'est à moi que ça arrive ». Le regard dans le miroir agit tel un surcadrage. Il crée un redoublement réflectif, rappelant le travail d'écriture lié au regard a posteriori comme une caméra subjective, et il met en scène la tension sans cesse évoquée entre la bonne étudiante d'avant et la jeune fille qui a cette chose-là en elle. Un autre effet lié à la durée et à l'attente concerne le travelling lent où la projection des images se fait au ralenti. Ça se trouve notamment au moment où la narratrice sort de chez l'avorteuse avec cette dernière. Je vais citer « Au dehors, tout est devenu brusquement irréel. Nous marchions l'une à côté de l'autre au milieu de la chaussée et nous avancions vers le fond du passage Cardinet. Dans la perspective semblait barrée par le mur d'un immeuble, ne laissant qu'une fente de clarté. C'est une scène lente. Le jour n'est plus très clair. Dans ce passage, le ralenti souligne l'état de trouble du regard de celle qui pose la caméra subjective. Après la scène de l'avortement lui-même, davantage reliée aux arrêts sur image, le monde extérieur est reconnu à distance. Il paraît irréel, tant il reste réel pour les passants du passage Cardinet qui ne viennent pas de vivre l'enfoncement d'une sonde. Cette technique visuelle, associée à un décor quasi expressionniste et à une perspective donnant l'impression d'une contre-plongée écrasante, où, je cite, les hauts murs se rapprochent avec une déchirure au fond, permet une autre représentation mentale pour le lecteur. Et par ailleurs, ce plan saisissant du passage Cardinet est le seul dessin de la vie adulte de l'auteur, comme si la concrétisation par une image aurait pu réaliser une appropriation d'une expérience incomparable. Il en va de même pour la chambre du passage Cardinet, qui, je cite, « excède l'analyse ». Seul un plan de situation ou une photographie donnerait une image de ces scènes, mais c'est pas assuré. Seul Ernaud sait et ressent l'amplitude de l'événement dans sa vie. Il n'y a pas d'atelier de la faiseuse d'ange dans aucun musée du monde, le rendant visible et disible. Si l'avortement doit alors être mis au jour, il est par l'écriture, de la mémoire matérielle à la matérialité des mots d'une œuvre. L'auteur avoue que son récit de l'événement est motivé par le souhait de parvenir à ces images de janvier 64. malgré, je cite, la peur peut-être que l'écriture dissolve ces images, comme celle du désir sexuel après l'orgasme. La comparaison qui reprend les thèmes de sexe, mort et écriture chers à l'auteur souligne l'intensité du désir de mettre en mots l'événement malgré le risque de la non-coïncidence du récit et des sensations, de la pauvreté du langage pour exprimer une scène sans mots. C'est la jouissance à donner autrefois une expérience de la vie et de la mort à l'auteur. Cette expérience permet l'écriture de l'œuvre et qui sait alors ce qui pourra advenir de celle-ci et de son don à autrui. Écrire les souvenirs de l'événement ne va pas de soi, mais il s'agit d'une exigence de la mémoire et de retournement de l'ordre du monde que Ernaux réitère. Les ressources rappelant celles du cinéma servent à la mise en récit de l'expérience abortive, de façon à les mettre au jour et à les faire imaginer par le lecteur. Il est alors intéressant de mettre en parallèle ces souvenirs d'un temps où l'auteur, je la cite, sortait de l'espace et des lieux dans lesquels elle évoluait habituellement aux mêmes heures avec les autres étudiants. Et un certain travail d'écriture de scène. De la même façon que le quotidien de la narratrice lui devient étranger, le potentiel cinématographique travaille à montrer différemment le réel, pareil à un démontage visuel des choses, une déconstruction du visible tel que nous le percevons habituellement, comme le dit Georges Didier Huberman. La mémoire a enregistré des instants visuels et sonores d'un événement extraordinaire, et l'écriture, a posteriori, ne reflète pas qu'un reflet des états des choses, mais un travail d'appropriation, d'évocation et de témoignage des souvenirs. À la fois le fond et la forme jouent au démontage, et surtout au remontage, ou à la réécriture. Après avoir vécu l'avortement, Ernaux raconte qu'elle écoutait dans sa chambre la Passion selon Jean de Bach, et qu'il lui semblait que c'était son épreuve d'octobre à janvier qui était racontée dans une langue inconnue. Une scène toute cinématographique en surimpression visuelle est alors imaginée. Puis venaient les cœurs. Un horizon immense s'ouvrait, la cuisine du passage cardinait, la sonde et le sang se fondaient dans la souffrance du monde et la mort éternelle. Je me sentais sauvée. Si les ressources de l'image et du son permettent à l'auteur de s'approprier son histoire, elles lui permettent d'autant plus de la raconter de façon artistique, littéraire et de la rendre durable au monde.
Merci beaucoup pour le... cet exemple très intéressant. Pour la suite des choses, je vais céder la parole à ma collègue Lydia Lassière.
Donc, maintenant, au tour de Brigitte Fontier, candidate au doctorat au département de français de l'Université d'Ottawa. Brigitte consacre ses recherches aux relations entre la littérature et la musique. Son projet de thèse porte sur la présence de la musique dans les œuvres de fiction de Pascal Quignard. Elle est l'auteur d'articles et de communications sur une lecture épistémocritique du rôle de la musique dans l'univers romanesque contemporain. Et le titre demande le même.
Oui,
oui. Donc, le concert médial de Pascal Quignard.
Mon projet de thèse vise à analyser donc, la présence de la musique dans les œuvres de fiction de Pascal Quignard. Et c'est à partir d'une lecture attentive de la présence des éléments musicaux dans l'œuvre de fiction Quignard que j'ai tenté d'approcher la problématique à partir de trois questions. Quel traitement le texte fait-il au référent musical? Comment le texte est-il travaillé par le musical? Et plus précisément, en fait, en quoi la musique accompagne-t-elle ou prolonge-t-elle la poétique littéraire de Quignard? Chez Quignard, la musique est généralement un élément central du récit, étant occupé une position dominante dans la narration. Plusieurs des références musicales sont manifestes, nom de compositeur ou musicien pour les personnages, mention d'œuvre musicale, développement de techniques de composition, apprentissage d'un instrument, jeu d'interprétation, élaboration sur les instruments de musique, le musicien, les scènes de concert, etc. Donc, autrement dit, la musique, son histoire, son essence, son langage et ses enjeux offrent, à mon avis, l'empreinte d'une trace bien plus profonde qui passe aussi par une attention toute particulière à l'expérience musicale proprement dite, c'est-à-dire à la manière dont la musique peut travailler l'espace, le temps, le sujet qu'il éprouve et les possibilités de l'écriture littéraire face à cette expérience. Aussi, la dominance de ces indices, paratextuels et textuels, suscite-t-elle chez le lecteur la volonté de transcender les deux domaines artistiques? Mes hypothèses que je vous expose ici dans leurs grands axes ont été atteintes à partir d'un questionnement classique intégrant une double perspective. Qu'est-ce qui intéresse l'écrivain dans la musique? Et comment réalise-t-il cet investissement? Soit la question fonctionnelle hein, du pourquoi, impliquant la question du quoi en rapport avec la dimension de la nature du référent, la question du comment. Tout ça inscrit dans une dimension en rapport avec la nature du référent, dans une perspective globale d'une création narrative et non dans une œuvre spécifique ou d'un discours sur la musique. Donc, je vous présente les résultats de plusieurs analyses et pas d'une œuvre en particulier. Je m'attarderai donc à vous exposer quelques fonctions que vient jouer l'élément musical dans l'univers romanesque et Quignard. À la question de savoir quelles caractéristiques artistiques sont privilégiées, je ne m'attarderai que sur la musique, bien que l'œuvre de Quignard tisse également des liens significatifs avec la peinture et la danse. Il manifeste une prédilection pour les œuvres musicales du premier baroque. Hein, on voit une première fonction axiologique là, se dresser ici. Celle-ci, marquée par un retrait du voir, les leçons ténèbres ou les tombeaux propres à la musique baroque, le sont aussi par la rhétorique musicale qui invitait l'auditeur à se construire un petit théâtre intérieur dont les figures musicales, les centres chromatiques ou dissonances, par exemple, indiquaient la teneur et les mouvements des affects. Ce que Quignard entend dans les œuvres du premier baroque à travers la musique de Sainte-Colombe ou de Marais-Marais, mais aussi les leçons ténèbres ou les vanités picturales, c'est un certain rapport à la nuit, à l'invisible, au silence, au retrait du monde et à la mort. Se dresse ici, on voit s'esquisser la fonction philosophique peut-être que la musique viendra jouer dans son œuvre. Mais la musique peut-elle être envisagée comme origine ou même horizon de l'œuvre littéraire? C'est une question pertinente, sachant que pour Quignard, la musique représente l'art premier, pré-linguistique. L'oreille étant le premier sens développé chez le fœtus, et la musique aurait conséquemment un lien direct avec l'origine, l'originaire, le fond du monde. Aussi, le personnage principal élabore bien souvent une figure de musicien. La trame narrative sera donc lancée, ou du moins influencée par ses qualités. Alors, je pense à une série de romans, Carus, Le Salon du Lourdes-Mer, Villa-Amalia, Tous les matins du monde, Vie secrète, La frontière, mais tout en scène comme personnage principal, un musicien ou un compositeur. Au centre du processus créateur, l'anecdote musicale agit comme déclencheur de fiction, c'est-à-dire comme source d'inspiration et d'imaginaire de l'écrivain. Et parfois, va vraiment venir orienter et guider la narration elle-même. La musique devient donc un prétexte, hein, donc avant le texte, et en même temps un prétexte au récit. C'est ici le mode d'insertion du référent musical qui présente la musique comme origine de l'œuvre littéraire et déclenche le récit, déclenche la narration. Alors, par exemple, je pense notamment à des anecdotes historiques qui permettent de lancer ou de créer un récit. Par exemple, la biographie fictive de Sainte-Colombe dans Les Matins du Monde. Une expérience musicale va permettre le développement d'une réflexion par le narrateur où l'univers musical, l'instrument, une pièce interprétée peut guider une métaphore qui vise à éclairer la réception, sinon la compréhension du texte. Je vais parler d'une deuxième fonction, donc je vais couper sur les exemples du tiré du texte que je pourrais revenir là, pour justement le passer de parole, mais je peux vous convaincre après avec des exemples tirés du texte. Donc l'expérience musicale, l'élément musical permet de franchir le seuil du texte. Hein, donc il s'agirait ici d'une fonction de relais. Donc la musique, hein, dans la fiction quignardienne, comme le souligne avec perspicacité Jean-Luc Boutreau, non seulement plusieurs romans narrent le passage à une activité artistique, mais ils servent de point de contact interartistique de manière à donner à la littérature une efficacité ou une résonance accrue. Fin de citation, et j'ajouterai avoir peut-être de relais à la littérature. J'avance ici que la musique fonctionne dans l'œuvre de Quignard comme moteur et relais de l'écriture et non comme programme esthétique. La musique vient exprimer l'indicible du langage, c'est-à-dire l'inexprimable, et l'expérience musicale du texte complète et prolonge ainsi les limites de l'expérience d'écriture et de lecture de l'écrivain. Aussi, la langue ne cherche-t-elle pas à rivaliser avec la musique, mais se tournerait plutôt vers la force imaginaire liée à la musique. Au-delà, devrais-je dire, peut-être au-dessous du récit, la musique vient agir au niveau du littéraire et dire plus que les mots. Je vous donne brièvement un exemple. Hein, la présence musicale ou l'expérience musicale qui peut franchir les seuils de ce que le texte ou le récit normalement pourrait pas. Je pense entre autres à toutes ces images et métaphores récurrentes dans différents textes qui dirigent le texte vers une représentation du musicien qui intervient sous la figure du passage. Et dans les œuvres de Quignard, il semble que le musicien, le compositeur, soit tout désigné à devenir ce passant, en ce sens que la musique est par sa nature même capable de hélier les morts et d'ouvrir ainsi un passage entre ce monde-ci et le monde des morts. Encore là, il y a plusieurs scènes qui viennent renforcer cette idée. Donc, les personnages compositeurs de Quignard sont tous ainsi marqués par la douleur d'une perte. Sainte-Colombe fait face au décès de sa femme, sa fille. Marie a perdu sa voix dans la nuit. Charles Chenon, dans le salon du Württemberg, doit faire face au deuil de sa chatte, d'une ennemie et de notre amie. Anne Eden, dans le Villa Amalia, fait face à la nécessaire séparation avec les hommes de sa vie et fait également face à la perte de plusieurs personnes de son entourage. Donc, marqué par la douleur, abandonné seul sur la rive des lamentations, ils recourent tous à la musique pour aller, je cite, « au bout du monde de la tristesse ». Je cite Quignard. « En traçant un passage entre le monde des morts et celui des vivants, la musique est l'antenne sonore de ce déchirement, mais aussi l'instrument d'une nouvelle rencontre, à la fois heureuse et douloureuse. Car si Charon, et là je renvoie à des images symboliques utilisées par Quignard, donc Charon transporte El Passeur vers la mort, la musique, quant à elle, opère inversement et ramène vers le vivant, ramène vers la mémoire. Donc c'est la charge émotive associée à la musique qui est en jeu ici dans le texte. Hein, sortir de la linéarité du récit, en franchir l'espace-temps, tout en demeurant plausible dans le récit. La musique influence également l'écriture et la forme littéraire, la forme de l'œuvre littéraire. C'est à travers la pratique, et je prends un exemple ici, la pratique de l'attaka que Pascal Quignard cherche littéralement et littérairement à désarçonner le langage. L'attaka qui se manifeste dans la forme des récits de Pascal Quignard plus profondément depuis Vie secrète en 1998, donc tout ce qui suit hein, est très fortement marqué par ce délire. Et c'est un procédé d'écriture que Pascal Quignard disait mieux chez la Bruyère et qui fait face et qui place face à face des rythmes différents dans le récit. Le procédé, qui est très proche de l'arythmie, est emprunté non seulement à la Bruyère, mais aussi à la musique. Quignard le compare en effet aux suites baroques françaises, dont chaque morceau, formant un tout, qui est la suite, est soumis à une autre rythmique issue de la danse, préservant ainsi, je cite, l'éclat bouleversant de la table. Suivant le rythme saccadé, préserver la discontinuité de la pensée dans l'écriture, c'est miner ce mouvement même, et c'est sans doute aussi parvenir furtivement à désarçonner quasi musicalement la toute-puissance du récit. Donc, Quignard cherche à cultiver un art de la rupture rythmique, la force essentielle de cette arythmie, en recherche volontairement une forme d'instabilité dans le style et dans les termes, passant de la réflexion au conte, sans chercher à ménager des liaisons ou des transitions. L'exemple des mots latins, qui sont très fréquents dans les récits de Quignard, pas seulement dans ses essais, pourraient occuper également une telle fonction. Ils abîment soudainement la continuité sémantique du texte, fonctionnant alors comme de petites entités musicales, creusant par leur asémanticité, ici, leur référentialité perdue, des trous dans la trame du sens. Je pourrais encore, hein, son écriture elliptique, tout le recours aux oxymores, ou sa pratique de la parataxe, viennent renforcer cette idée du disjoint. Finalement, dans un passage de Climatique du monde, et là je vais essayer d'explorer une nouvelle fonction qui mine mon modèle de lecture avec le rôle du corps social. Dans tous les matins du monde, la scène la femme de Sainte-Colombe lui apparaît pour la première fois. Musique, peinture et mort sont insolublement liés.
C'est après un rêve où il renonce à tous les plaisirs du monde et où l'on retrouve des éléments symboliques des vanités baroques, instruments, fleurs, pâtisseries, partitions, vins, qu'il va rejouer le tombeau des regrets, qui est une œuvre de Saint-Colomb, réelle, hein, composée lors de la mort de sa femme et où celle-ci va lui apparaître. De même, c'est à ce moment-là, alors qu'il joue le tombeau, que se met en place le sujet du tableau de Gauguin, le dessert de Gaufrette, qu'il commandera au peintre après cette apparition. On a ici un entrelacement de faits historiques et d'éléments de fiction. À la musique de Sainte-Colombe répondent donc les tableaux de Gauguin, dont les éléments se mettent en place dans la cabane où le musicien aime jouer, formulant la même obscurité semblant articuler les mêmes mots. Donc, il y a un parallèle ici qui vient s'établir entre la peinture et la musique pour renforcer ce que le récit veut dire. Cette association est associée à la genèse de l'une des vanités baroques avec une pièce musicale et un épisode de la vie de Saint-Colomb n'est pas anodine dans la mesure où leur sens déborde alors leur simple signification symbolique pour devenir part intégrante du récit. Un autre exemple pourrait être la leçon de musique, qui est le titre d'un récit qui narre et qui est également un tableau de Vermeer. Il semble alors que le rapport à l'écoute se doute toujours d'un certain rapport aux voix dont témoigne la manière dont Quinard entend les vanités picturales, comme s'il avait fait sien les mots de Claudel, l'œil écoute. Phénomène surprenant, les musiciens de Quinard n'aiment pas écouter de la musique et préfèrent lire les partitions. Abandon des instruments et de l'oreille au profit d'un certain art de l'oreille interne, chez Quinard, l'écoute se fait plus intérieure et s'engage dans une dimension plus introspective sous le signe d'un retrait, hein, souvent d'un retrait social. Lors de l'audition intérieure, il se joue quelque chose de l'ordre de la caméra obscura, et je cite ici un passage de Vie secrète. On lit la partition, puis ça résonne à l'intérieur du corps comme les images nocturnes se projettent dans les rêves à l'arrière des yeux dont les paupières sont depuis longtemps refermées. Il y aurait donc une capacité imageante propre à l'écoute, très proche de celle du rêve, car l'écoute, en tant qu'elle forme le retrait du visible, serait une des formes privilégiées du rêve éveillé. Cela signifie également que la musique est envisagée non seulement dans ses liens avec le monde visible, mais comme ouverture vers un autre lieu. On est dans un hors lieu, et pourtant la musique franchit les seuils, franchit les frontières, encore une fois. Les allusions, citations, anecdotes historiques, références, métaphores, termes spécialisés, commentaires sur la musique dont regorgent les œuvres de fiction de Quinard, semblent souvent guider l'écriture quinardienne au défi de toute logique narrative linéaire ou purement événementielle. De plus, une fois intégré à l'œuvre de fiction, le référent musical prend une autonomie par rapport à sa discipline première, qui est la musique, et est adapté par le littéraire qui le met au service d'une élaboration personnelle. Le savoir associé au référent musical ne se rend pas dans la continuité rassurante d'une suite explicative, mais dans une transmutation, j'emprunte un terme à Jacobson, opérée par des agents de transfert au dessein d'une construction privée. L'objectif de ma démarche a été jusqu'ici d'examiner la manière dont sont tissées les références musicales présentes, allusives et implicites dans le roman de Quinard, afin d'envisager plus profondément la manière dont l'écriture peut se nourrir de la musique et s'y confronter. Après m'être attardée à la nature du référent musical en première étape, son mode d'insertion dans le récit, son mode de greffage à la narration et ensuite aux fonctions que l'élément musical peut occuper. Il me reste encore à tenter de comprendre les enjeux littéraires d'une telle démarche, notamment auprès des trois grands axes de la littérature. Par exemple, qu'est-ce que ça a à voir avec l'éthos de l'écrivain, le texte proprement dit, et l'acte de lecture, en quoi ça vient modeler, influencer ou agir sur le lecteur par une probablement mise en dernière.
Merci. Donc, le dernier intervenant du monde de Monsieur Gilles Pellerin, écrivain, directeur littéraire des éditions de l'Instant Même, conseiller littéraire du dernier festival Québec en Belgique, professeur de littérature au Cégep.
Bonjour! Le café, c'est ici?
Oui. Merci. On a un petit café, ça fait. Donc, professeur de littérature au Cégep François-Xavier Garneau, membre de l'Académie des lettres du Québec, Gilles Pellerin est visiblement très actif sur la scène littéraire québécoise. Il est d'ailleurs le récipiendaire de nombreux prix, ici comme ailleurs, qui soulignent son apport à la culture, dont le prix de l'Institut canadien, le prix du rayonnement des lettres à l'étranger de la communauté française de Belgique et l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Ses essais, dont La mèche courte qui est paru en 2001, se portent également à la défense de la culture et de la langue française. Et on peut interpréter ses œuvres de fiction comme une défense du genre bref. On notera enfin, depuis sa thèse de doctorat qui portait sur le peintre Gustave Moreau, une préoccupation constante pour les liens entre la littérature et les autres arts.
Le dernier, même nom, plus jeune. Je corrigerai que c'était une maîtrise et non pas un doctorat.
Ah,
vous m'excuserez du côté, je voulais vous livrer des réflexions en vrac sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'ai surtout été, dans la proposition qui nous était faite, attiré par les questions qui en resteraient à la politique. Donc, d'abord des antécédents. On l'a dit, j'ai consacré mon mémoire de maîtrise au rapport entre la peinture et la littérature chez Moreau, c'est-à-dire pour avoir des références littéraires chez Huysmans, très précisément à Arbour, au premier chef, dont on a souvent fait, qu'on a souvent considéré comme le premier roman moderne. Et c'était en raison notamment du fait que l'art était, la peinture était associée à la littérature. Donc, dans les réflexions que vous suggérez, je pense que cette piste reste vraie. L'intérêt que les écrivains ont pour la peinture est probablement un des traits de la modernité. Mais aussi intérêt pour la musique parce que deux choses. D'abord, le premier recueil de nouvelles que j'ai fait paraître était construit comme une sonate classique, avec des variations, 12 variations en guise de premier mouvement. Et les trois parties étaient appelées des mouvements avec des titres à caractère musical, un finale pour terminer, puis un scherzo à la façon de Beethoven en guise de deuxième mouvement. Mais j'ai aussi, à titre de professeur de cégep, je me suis livré à une expérience il y a déjà une quinzaine d'années. Nous avons dans le cursus des cours obligatoires, nous enseignons le théâtre en deuxième semestre. Et j'avais décidé de présenter en guise de premier cours, la partition de chef d'orchestre du premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, le papapapa. Alors, c'est une partition que j'avais agrémentée avec des icônes, là, parce que, bon, par exemple, découper des corps français, des hautbois, avec des numéros, ce qui fait que quand on écoutait la pièce, je disais 35, là, il regardait où était écrit 35, et puis il voyait ce qui était écrit. On écoutait ça deux ou trois fois, et le but était de faire en sorte que, par la suite, on voit le théâtre comme une partition, et qu'on voit la musique dans sa théâtralité. Alors, je suis allé vérifier hier sur YouTube le premier mouvement en question, la justesse de, entre autres, il y a un tout petit solo, vous le savez, c'est la partie à piacere du hautbois, là. Moi, ce que je voulais montrer, c'est aux étudiants, une fois qu'on a repéré la chose, c'est de dire, bon, ben le hautbois, il n'arrive pas comme ça, de but en blanc, il a fallu que Beethoven l'amène. De la même manière qu'un dramaturge amène un personnage sur scène, de la même manière qu'on traverse pas la scène si on n'est pas tenu de le faire, il n'y a pas de mouvement inutile au théâtre, il n'y a pas, mais il faut faire entrer les éléments. Parfois, c'est spectaculaire, toujours dans le même Beethoven, pensez à Léonore II, l'ouverture où le trompettiste doit se retirer et jouer son solo de la coulisse. Bon, il y a des choses comme ça, mais dans le cas des cadences ou de la musique symphonique, on entend parfois des parties de solo et elles doivent être amenées. Et bon, vous voyez, il y avait cet aspect-là. Je l'ai fait deux fois et je me suis arrêté parce que le travail était trop considérable pour le gain qu'on en tirait, à la mesure où, vous vous en doutez bien, la préparation à l'écoute de la musique est extrêmement déficiente chez nos étudiants. Et donc, là, il y avait même, dans certains cas, des refus systématiques. Hey, on a assez d'apprendre de la littérature sans apprendre de la musique, calice. Bon, grosso modo. Fait que c'était plutôt ça, le solo de hautbois que j'entendais. Ou de corps anglais, sans doute, à la fin de l'expérience. Mais je dirais aussi, troisième antécédent, c'est que il m'est arrivé de donner des cours d'atelier littéraire et de partir d'éléments, soit musicaux, mais surtout picturaux. Mais alors là, je cherchais, par exemple, dans des grâce à Photoshop, en triturant des images que j'avais prises moi-même par appareil photographique, donc aller chercher des structures qui peuvent suggérer le géométrisme, et puis commencer donc après ça à lancer des exercices de création à cet égard. Mais je signalerais aussi qu'il est possible, quand on est en présence de gens qui ont l'oreille un peu plus développée, simplement de faire de faire entendre la dimension cyclique de la musique par le système modulatoire. On part en do, en sol, en ré, en la, enfin, vous connaissez le système. Donc, on entend ça très, très, très bien chez Vivaldi ou chez Bach, par exemple. Donc, d'être capable d'imaginer que la forme circulaire, si utile dans la construction de la structure d'une pièce musicale, pourrait être prise à profit en littérature. Alors, j'avais dit ici, c'est une prédiction que je constate que je ne donnerai pas d'exemple, j'en ai donné une page, je vous en fais grâce, et je vous signale simplement de quoi il ne sera pas question. Je ne parlerai pas de l'expérience, par exemple, de Roland Giguère, ou qui conjugue dans le tissu poétique son travail de peintre et son travail de graveur avec le travail d'écrivain. Et je vous renvoie pour référence à deux ouvrages, Littérature et peinture de Roland Bourgneuf et Regard, peinture et fantastique au Québec de Simone Grossman, simplement pour signaler que, oui, le corpus québécois est riche aussi de figures qui peuvent nourrir notre réflexion. En bref, pour pouvoir dégager une poétique appliquée, il est raisonnable de passer par l'analyse et observer les éléments suivants, ou de poser quelques questions, c'est ce que je lis en vrac. En soi, le personnage de l'artiste est porteur de qualités romantiques indissociables de la conception même qu'on se fait du romanesque depuis deux siècles. L'artiste est un personnage avant même d'être placé dans le cadre d'une fiction. Le musée et la galerie d'art sont des lieux propices. Leur réalité superpose deux ordres, celui d'un lieu fermé avec des murs peints, des promeneurs, un banc pour s'asseoir et s'absorber dans la contemplation du second ordre, celui de la représentation. Les intrigues peuvent se nouer entre les personnages des deux ordres, spectateurs entre eux, personnages peints entre eux, spectateurs et personnages. Comment est-il possible pour un art, de l'instant figé, comme la peinture, de proposer au spectateur une trame dramatique? En fait, c'est à ça que j'ai consacré mon travail de maîtrise, à partir des toiles de Moreau, mais très spécifiquement de la série des Salomé, qui nourrissent le cinquième chapitre d'Arbour. Donc, comment, par exemple, quand Salomé a brandi la tête du prophète, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était d'analyser le fait que la peinture, déjà, cette peinture d'histoire si populaire au 19e siècle, s'appuyait sur des récits en creux. Assez étrangement, dans Salomé, qui était la figure par excellence de la fin du 19e siècle, le récit en creux fait une ligne et demie dans la Bible. Donc, c'est des constructions qui se sont faites en parallèle. Or, la peinture de Gustave Moreau a servi de relais à une quantité phénoménale d'œuvres, dont la plus connue est bien sûr la Salomé d'Oscar Wilde, avec les versions à l'opéra. Par exemple, chez Massenet, il y a une Salomé, mais aussi, bien sûr, l'opéra de Richard Strauss. En corollaire, comment la totalité immédiate de la toile peut-elle être transposée dans la linéarité du récit? Et sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec la rencontre d'aujourd'hui, hier, parce que je suis prof, là, cette fois-là, de 101, c'est-à-dire le premier cours, et comme c'est l'hiver, vous devinez que mes étudiants sont extrêmement faibles, donc pour essayer de leur faire comprendre la matière prévue par le ministère, à savoir le romantisme, le réalisme, le fantastique, hier, nous avons passé 2 heures à regarder, à jeter une analyse immédiate, très sommaire, de toiles romantiques. Après ça, donc, les comparer aux autres classiques pour montrer, et là, c'est évident, dès le départ, quand je pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un personnage? Il me dit, oui, il est là. De quoi a-t-il l'air? Ben, il est tout petit, à travers une nature déchaînée. Donc, on est en mesure, après ça, de leur lire un extrait de Jean-Jacques Rousseau, le fameux passage où le mot romantisme apparaît. Donc, on est en mesure, donc, d'identifier, enfin, je l'espère du moins, à partir de toiles, souvent de peintres assez mineurs, parmi lesquels, quand même, triomphe le fameux Caspar David Friedrich, qui devient la folie chez tous les étudiants de cégep qui en font la connaissance avec les scènes verteriennes là, du type avec la redingote est grimpée de façon tout à fait improbable au sommet des Alpes en dominant le monde, le perso d'études supérieures. Et ça, j'ai pas besoin d'un roman de... J'ai enseigné déjà le Werther, mais là, je peux le faire en 5 minutes avec le réalisme, avec les autres fantastiques. Là, je me sers de Tintin, le secret de la licorne, que je compare au château de Cheverny pour bien montrer comment, dans un cas, on est dans le triomphe de la symétrie, dans l'autre cas, dans des asymétries, en un seul mot. Alors, de la peinture à la littérature, le trajet n'origine pas nécessairement d'une œuvre figurative, parce que les questions que je soulève jusqu'à présent ont trait à la peinture figurative. On peut évidemment se poser des questions à partir de la peinture abstraite, et poser des questions qui, sans doute, là, seront assez voisines de celles qu'on poserait à propos de la musique, et qui ont été déjà soulevés s'agissant de l'œuvre de Pascal Quignard, qui ont tous trait à des mouvements, des rythmes, à une pénétration de l'écriture elle-même. En serait-il, dans le cas de la peinture abstraite et de la musique, question d'abord et avant tout de rythme? Et si je pose la question pour la peinture abstraite, vous devinez que je suis en pleine synesthésie. S'agit-il de rythme, de mouvement, d'énergie? C'est d'ailleurs une constante que de lire des propos marqués par ces synesthésies. Hein, une prose d'aquarelliste, une musique lumineuse, une sonate bavarde, une nouvelle syncopée. Cette zone de cohabitation est significative en soi. Les arts sont attirés les uns par les autres. Les écrivains ne méconnaissent pas les mérites des autres discours. Ce sont même eux qui utilisent ce type de métaphore. C'est leur sensibilité, leur subjectivité qui joue en bout de ligne en raison de la spécificité de la langue comme outil descriptif, commentateur, argumentatif. Marais-Marais ne pourrait pas, si l'occasion lui était donnée, commenter l'œuvre de Quignard de la même manière que Quignard pouvait faire avec Marais. J'enlève la question l'anachronisme. Parce que toute tentative de parler d'une toile... D'ailleurs, tiens, Picasso, Giorgio Di Chirico, Alberto Savigno, Dali ont écrit. Ils ont eu recours au texte de la même manière que Guillaume Apollinaire, Paul Éluard pourraient écrire sur eux. Ce que toute tentative de parler d'une toile ou d'une sculpture met en évidence, c'est le tissu descriptif. La description littéraire peut-elle y gagner au contact des arts visuels? Les principes de composition picturale, le rapport de masse, la notion d'avant-plan, me semble être utile à l'écrivain, et il est possible de les transposer dans la recherche d'équilibre d'une scène, et non seulement dans la description d'un lieu. C'est-à-dire que le profit, et là je citerai le cas de Zola, parce que j'ai mis 30 ans à comprendre ce qui m'énervait chez Zola, parce que parfois, c'est l'urticaire carrément, et j'ai découvert ce que c'était. C'est le personnage de Claude Lantier, vous avez fait état de l'œuvre de Zola, où le personnage central dans sa grande fresque, c'est Claude Lantier. Vous observerez le nom, hein, Lantier. Or, l'anecdote nous dit, faisons un peu de Sainte-Beuve, que Zola était condisciple de Cézanne, du temps de leurs premières études à Aix. Or, il me semble que chez Zola, le problème, enfin, moi, mon problème de lecteur avec Zola, c'est quand il fait intervenir Lantier et que là, l'écrivain essaie de faire de la littérature de peinture. Et à mon sens, c'est raté. Alors que si vous lisez d'autres pages, par exemple, dans le Ventre de Paris, où Lantier joue un rôle très, très, très secondaire, bien, il y a des passages, les fameuses descriptions de Zola sont éminemment picturales. On sent les choses, enfin, on voit très, très facilement. Donc, finalement, un Zola demi-portion vaut mieux qu'un Lantier. Enfin, à mon point de vue. Donc, cette espèce d'ekphrasis, là, donc, de transposition, a mis du temps à apparaître dans le roman québécois, parce que vous posez la question tout à l'heure. Et là, la réponse à votre question, je l'ai eue il y a une dizaine d'années, étant à Toronto, je me suis retrouvé au Royal Ontario Museum. J'ai constaté qu'il y avait des Torontois qui, au 19e siècle, avaient des œuvres d'art. Et je me suis demandé comment se faisait que mes arrière-grands-parents n'en eussent point eu. Ben, ils tiraient les vaches. Ils étaient dans une société où ils devaient d'abord s'occuper de leur subsistance, donc il n'y avait pas de collectionneurs d'art au Québec. L'art arrive tard dans la réalité québécoise. Or, le régime dominant de notre littérature narrative, c'est le réalisme. Donc, c'est normal que les questions de modernité se sont posées plus tardivement au Québec qu'en France, ne serait-ce que statistiquement. À l'époque de Zola, on avait assez peu d'écrivains qui se penchaient sur la question. Là, je viens d'aller chercher Jacques et Marie de Napoléon Bourassa, dont j'ignorais l'existence, qui est un peintre qui a écrit à l'époque de Zola. Donc, je vois comment un peintre a-t-il abordé cette question. Alors, pour la musique, de même, la structure tonale d'une mélodie, passage à dominante, où l'auditeur est placé en situation d'attente au passage à la tonique. En fonction tonale, la dominante, c'est ce qu'on attend avant, dans une pièce classique, avant qu'on aille la résoudre par une cadence. Donc, on va se placer la plupart du temps à la tonique. Bon, cet élément-là, on peut le retrouver absolument dans la construction d'une nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Là, il y a une attente qui est créée chez le lecteur, et après ça, il y a le dénouement. Mais on peut aussi considérer un autre des sens de la cadence, cadenza en italien, qui veut dire chute. Ça, j'ai appris ça cette semaine aussi en préparant mon affaire. Je vous ai dit, voilà, donc l'association entre la musique et la nouvelle est déjà inscrite dans la terminologie elle-même. Donc, les processus qui font qu'une mélodie avance, évolue, on peut donc les transposer dans une perspective dramatique ou simplement dans une perspective syntagmatique. Se rappeler donc que l'intrigue, et au premier chef, la phrase mène quelque part. J'ai rapidement fait état de la dimension structurelle ou structurante. Non, je ne l'ai pas fait. C'était écrit, mais c'est dans ce que j'ai laissé tomber. La suite pour orchestre, en tant que forme littéraire, peut être le modèle même du recueil de nouvelles classiques. Et là, à titre d'exemple, Casse-Noisette. À Casse-Noisette, on sent très très bien une progression qui, surtout quand on a vu le ballet, se termine par la fameuse valse finale. Et un texte aussi peut, dans un recueil de nouvelles, faire carrément office d'ouverture. Deux dernières choses, la réflexion sur la musique présente pour l'intérêt, pour l'écrivain, l'intérêt de considérer un art à la fois linéaire et horizontal, parce qu'il y a une mélodie, c'est la dimension linéaire, puis il y a l'harmonie ou le contrepoint qui vont établir une dimension verticale, mais en fait surtout l'harmonie, donc, avec la polyphonie. Et ce côté-là, donc, on pourrait imaginer que la phrase pourrait être tentée par ça. Enfin, il y a un exemple célèbre, célébrissime, Proust. Et d'ailleurs, anecdotiquement, c'est la sonate à Vinteuil qui arrive. Et nous sommes très heureux de ne pas la connaître. Parce que il me semble que le roman, enfin, le cycle serait beaucoup moins intéressant. Personnellement, j'ai toujours entendu quelque chose qui ressemblerait à du Gustave Fauré. Et bref, pour terminer sur la musique, fondamentalement, nous sommes en présence de cellules plus ou moins grandes et de mouvements avec des résolutions, avec des tensions dramatiques. Et je terminerai sur l'exemple achevé pour moi d'une conjugaison à l'opéra de cette dimension-là. C'est le duo d'amour du premier acte de Madame Butterfly, quand, à partir d'une cellule musicale, le compositeur qui fait entrer Pinkerton et Cho-Cho San, et là, ils se mettent à s'agacer avec la phrase musicale, mais quand on entend le début, ça dure à peu près 8 minutes, et à la fin de la séquence, on découvre que la cellule s'est accrue, et à la fin, là, ils peuvent enfin, parce que la mélodie s'est construite devant nous de façon extrêmement astucieuse, et à la fin, parce qu'on n'en peut plus, et ils chantent enfin. Et j'ai eu l'occasion de le voir au Grand Théâtre de Québec, et 1800 personnes ont un besoin immédiat de recourir à un adjuvant de papier qui est le papier mouchoir.
Merci beaucoup pour cette présentation. Comme le café vient d'arriver, on va prendre 5 minutes à aller chercher un café. On a des 4 quarts à